Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Dogs Dehors. Je suis Juliette Sebaud, dog walker depuis 6 ans et je vous partage ici mon amour des chiens en vous présentant des histoires originales et rigolotes. Merci à tous ceux qui me font des retours sur les épisodes, ça m'aide beaucoup pour m'améliorer. Ce qui m'aide aussi énormément, c'est que vous partagez les épisodes qui vous ont plu, à vos amis, à votre famille et bien sûr que vous mettiez une petite note et un commentaire sur Apple Podcast. Cette semaine, je suis accompagnée de Maxime et nous avons discuté avec Antoine de sa petite chienne Pipa qui est un lévrier italien. Elle est vive, joyeuse et très affectueuse, mais le lévrier est en général assez réservé et timide avec les étrangers. Attention à ne pas le brusquer, mais une fois qu'il vous a bien cerné, c'est pot de colle assuré. Pipa a rejoint mon groupe de balade il y a quelques mois et elle se lâche de plus en plus avec les autres, jusqu'à faire des courses-poursuites bien connues des lévriers. Antoine a une camionnette aménagée avec laquelle il voyage régulièrement et y trouve des spots sublimes en pleine nature pour passer la nuit. Pipa est bien entendu de la partie et le chat les a récemment rejoints. Ça donne des balades de rêve, seul au monde sur les plages normandes, entre autres, liberté totale et des souvenirs inoubliables. On attend les prochaines aventures avec impatience et je vous mettrai d'ailleurs dans la bio le lien de son Instagram pour pouvoir suivre tout ça. J'ai découvert la race de Pipa avec elle, ce sont des chiens qu'on connaît pas très très bien et je suis hyper contente de pouvoir vous partager plus d'infos à travers ce podcast. Merci beaucoup Antoine d'avoir accepté de nous raconter ton quotidien avec tes animaux, c'était un vrai plaisir de discuter avec toi et d'apprendre de tes réflexions. Merci aussi à Maxime d'avoir été mon binôme. C'était notre dernier podcast ensemble. Bonne écoute à tous. Bon, alors donc Antoine, on est ensemble aujourd'hui avec Maxime pour parler de Pipa. Pipa qui est un petit lévrier italien.
Oui, c'est ça.
Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment elle est arrivée dans ta vie, son âge
Ouais, bah assez vite. Alors moi, je connaissais même pas cette race. Faut s'imaginer un lévrier adulte et tu fais trois fois plus petit. Et c'est ça. Et donc, à chaque fois que tu croises quelqu'un dans la rue, il dit « Oh, c'est un bébé lévrier. » Non, c'est un lévrier italien.
Et c'est encore différent du Whippet.
C'est encore différent du Whippet. Beaucoup de gens pensent que c'est un Whippet. J'ai eu un débat avec une dame dans la rue qui m'assurait que c'était un Whippet. J'ai dit « Non, c'est moi qui l'ai en douté. Je sais que c'est un lévrier italien. » Et un Whippet, c'est un peu plus grand.
Ouais.
Et c'est un peu moins mignon. Personnellement.
C'est bien sûr un avis personnel. Pipa, c'est la première que je rencontre vraiment.
Ouais.
Et elle est ultra douce. Enfin, c'est vrai que c'est différent des Whippets, c'est vachement plus fragile. Enfin,
ouais, c'est très, très sensible.
Ça a l'air très fragile. Ouais.
Très, très sensible. Après, c'est une dure à cuire. Hein. Elle se fait des bonds, des sauts, des courses. Elle est assez impressionnante. Mais c'est un chien hyper sensible.
Ouais.
Il ne faut pas adopter un chien comme ça si on veut juste un animal peluche à mettre dans le sac à main. Ça n'a pas marché. Et c'est un chien qui demande aussi beaucoup d'attention. Mmh. Et ça, moi, au début, je ne le savais pas. C'est pour ça que je ne conseille pas aux gens de faire la même chose que moi. Moi, j'ai vraiment pris sur un coup de tête. On était deux, hein, on est en couple, on l'a choisi ensemble. Et on s'est dit, ouais, on aurait bien un chien. Et en fait, on l'a pris. Alors, c'est une histoire vraiment débile, mais on l'a pris parce que c'était la même race que le chien de la youtubeuse Natou. Je sais pas si tu vois.
Oui, exact. Mais c'est pas une chienne qu'elle a adoptée.
C'est une chienne qu'elle a adoptée. Alors, c'est pas vraiment une pure race, je pense,
ouais.
La sienne. Mais on l'a trouvé marrante. Et on s'est dit, bah tiens, on veut la même. Et donc après, on s'est renseigné, on s'est quand même un petit peu renseigné sur la race.
Oui.
Mais en deux semaines, on a pris la décision et on est allé la chercher dans un élevage à Bordeaux.
Ok.
Et on l'a ramenée, elle était tout bébé encore. Et ensuite, on l'a...
Et donc, vous avez cherché les caractéristiques du lévrier. Vous avez vu que ça vous correspondait, ça pouvait le faire.
Ouais.
Et il y avait plusieurs élevages en France qui faisaient cette race.
Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a plusieurs. Donc, on en a choisi un, je ne sais plus sur quels critères. Enfin voilà, ils nous avaient l'air sérieux. Et c'est aussi un élevage qui a une page Facebook. Enfin, je sais pas si je donne le nom ou pas.
Ah, tu peux. Hein.
Ça s'appelle du Zéphyr de Byzance.
Ok.
Et ils ont une page Facebook, donc on peut voir tous les chiens, les naissances et tout. Donc c'est assez sympa. On avait choisi sur la photo. Alors on voulait une femelle.
Ouais, vous saviez que vous vouliez une femelle.
Ouais.
Ma soeur est allée chercher un chouchou à Rennes, en Bretagne.
Ouais.
Et à chaque fois qu'elle me raconte la démarche pour aller chercher son chien, c'est une espèce de voyage en fait, un peu initiatique.
Ouais.
Tu gardes quoi toi comme image de ce déplacement, des premiers contacts, de l'avoir avec toi au départ et d'être peut-être un peu penaud quoi. Enfin, qu'est-ce que t'en gardes?
Ouais, bah au début, ça te fait quand même un choc parce que t'as un peu, tu t'y attendais pas vraiment à avoir ça dans les mains, à avoir cette responsabilité-là. Et nous, il nous l'a apporté à la gare, donc on était à la gare quand on l'a récupéré, on n'est pas directement allé à l'élevage, j'avais pas le permis ni rien, donc c'était compliqué. Et ouais, elle était vraiment tout bébé, elle avait plus ou moins vomi et tout, elle sentait pas bon, et je me souviens, je me suis dit, mais elle va toujours sentir comme ça.
Dans les élevages, en général, ça sent pas ça.
Ouais,
sent fort,
et en fait, bon, c'est aussi parce qu'elle s'était un peu vomi dessus pendant le voyage et tout, pour elle, c'était la première fois qu'elle partait, donc elle était un peu en panique. Mais immédiatement, elle s'est blottie dans nos bras, c'est vraiment un chien. C'est, les Américains, ils disent c'est un lap dog, donc c'est un chien qui reste tout le temps sur les genoux. Et c'est vrai que dès que je m'installe sur mon canapé, direct elle vient sur mes genoux, elle est tout le temps sur nous. Et ça, c'est assez sympa. Et dès qu'on l'a eu, elle s'est blottie contre nous. Donc c'est un chien quand même qui apporte une affection, à mon avis, assez particulière.
Ouais. Et alors l'éducation, comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été facile? Est-ce que vous êtes renseigné sur l'éducation des chiens?
Alors moi j'ai jamais eu de chien avant, mais j'ai gardé des chiens. J'avais mon oncle notamment qui était assez occupé, qui nous avait confié son chien pendant 2 ans, je crois. C'était un labrador, donc les labradors sont assez faciles à vivre, puis il était déjà éduqué, donc c'était quand même différent. Mais moi ça m'a toujours quand même intéressé. Je voulais avoir un chien bébé plutôt que d'en adopter un, justement pour avoir la possibilité de l'éduquer, pour qu'elle soit pas, voilà, pour qu'elle soit quand même obéissante. Pour qu'elle soit propre, pour ça on a toujours du mal avec elle. Les lévriers italiens sont des chiens assez difficiles à rendre propres. Okay. Et voilà, mais moi j'adore, enfin, c'est un chien génial. Quoi.
Juste mini aparté, dans les refuges, il y a plein de chiots aussi. Hein. Mais ouais. En fait, après, quand tu veux une race précise, mais il y a, ouais, y a plein de chiots. Et donc encore aujourd'hui, la propreté, c'est problématique ou c'est réglé?
Ouais. Elle a 2 ans aujourd'hui et elle est pas encore parfaitement propre. En fait, le souci aussi, c'est qu'on a eu des petites coupures. Par exemple, quand on est parti à l'étranger, pendant les vacances, on est parti 1 mois, on l'a confié. J'ai confié à ma belle-mère qui a un jardin et tout, c'est super. Mais du coup, forcément, nous, on essaie de mettre en place des habitudes qui vont pas forcément se tenir, parfois qui sont cassées.
Ouais. Donc, petite perte de repère.
C'est des chiens. Ouais. En plus, c'est une petite vessie, donc ils peuvent pas se retenir très longtemps. Mais bon, il faut, voilà, si on tient vraiment à la propreté nickel de son appartement, faut pas prendre ce chien là, quoi, ça c'est sûr.
Et donc le matin, c'est la course dès que tu te réveilles pour la sortir, sinon.
Ouais, je la sors direct. Ouais. Tous les matins, et le soir, je fais une longue promenade avec elle. Oui. Je lui donne une petite récompense quand elle fait dehors, etc.
C'est bien.
Et son prénom, Pipa, ça vient d'où? C'est quoi l'histoire autour de ça?
Y a pas d'histoire. Désolé de te décevoir, non, y a pas d'histoire. Simplement, on cherchait un prénom, on a fait une longue liste. On n'arrivait pas à se décider. On voulait un prénom en fait qui soit à la fois. Qu'il soit pas trop un prénom d'humain courant, parce qu'on trouve ça un peu ridicule, et en même temps qu'il soit pas un prénom trop.
Trop donné.
Trop peluche, genre Choupette, ou je sais pas. Enfin voilà, nous c'est pas nos styles. Et donc on s'est dit Pipa c'est bien, parce que ça fait quand même prénom, ça fait vrai prénom.
Et mais puis c'est chic, tu vois.
C'est chic, Pipa, ouais, ça lui va bien.
Pipa Middleton, c'est
exactement,
quand même...
ça lui va bien, elle est chic, etc. Donc, voilà.
Oui, c'est vrai qu'elle est très élégante, Pipa.
Ouais, elle a une petite démarche, ouais.
Et donc tu as un chat aussi.
Oui.
Qui est arrivé avant ou après Pipa?
Qui est arrivé 2 ans avant.
2 ans avant.
Un an avant, pardon. Qui s'appelle Wendy, c'est une femelle aussi.
Ok, c'est une race aussi.
Ouais, c'est un snow bengal. En fait, les bengals, c'est des chats qui sont un peu tachetés comme les léopards. Et snow bengal, c'est comme ça, mais en plus clair. Donc, ça ressemble un peu à un siamois en fait, mais avec des taches.
Et elle est... comment s'est passée l'arrivée de Pipa avec.
Alors, moi, j'étais pas là quand elle est arrivée parce que j'étais à l'étranger. Mais au début, elle s'est planquée sous un meuble pendant 2 jours, enfin comme souvent avec les chats. Et puis après, elle a commencé à sortir petit à petit. C'est un chat qui est très sauvage, mais en même temps qui est très affectueux. C'est très étonnant en fait. C'est-à-dire qu'elle supporte pas la contrainte. L'emmener chez le vétérinaire, c'est une galère pas possible. Les vétérinaires se mettent à 3 pour la tenir quand ils le piquent, parce que sinon elle fait un bond pas possible. C'est très difficile de l'emmener en voyage ou de la déplacer, parce que dès qu'on la met dans sa caisse de transport, elle miaule sans discontinuer, ça peut durer des heures, elle miaule. Mais étonnamment, quand on est à la maison dans un environnement familier, elle vient beaucoup nous voir. Pareil, c'est un peu un lap cat aussi, elle reste beaucoup sur nos genoux et elle est très affectueuse, quoi. Et elle est très joueuse aussi.
Ok, et donc toutes les deux elles s'entendent assez bien?
Assez bien, ouais, assez bien. On a eu la chance de les mettre ensemble quand elles étaient encore assez jeunes. Elle a vécu 1 an, Wendy, le chat. Donc elles se sont plutôt bien entendues. Au début, Wendy quand même était un peu réticente. On venait un peu lui voler un bout de son territoire. Mais finalement, elles s'entendent bien. Elles sont toujours contentes de se retrouver. Parfois, elles dorment ensemble.
C'est mon rêve, ça, d'avoir un chien et un chat qui dorment ensemble.
Ouais. Bah, en fait, quand on les prend bébé, c'est... C'est pas très con. Ah, mais je sais qu'il y a des histoires entre les chiens et les chats qui disent que comme ils ont pas la même manière de communiquer, c'est compliqué. Par exemple, quand le chien bouge la queue, ça veut dire qu'il est content, mais le chat, c'est-à-dire qu'il est énervé, et qu'il en... du coup ils se comprennent pas. Mais je pense que quand on vit avec un chien et un chat, ils finissent par s'habituer l'un à l'autre.
Mais oui, ils cohabitent très bien.
Ils n'ont pas le choix, hein. Quand tu es tous les jours avec l'autre, tu finis par.
Et c'était quoi l'idée en fait de prendre un chien? Parce que quand t'as un chat, t'as déjà l'accompagnement, enfin la présence qu'un chien peut t'apporter sans les inconvénients. Un chat, pardon, ouais. Sans les inconvénients de devoir le sortir, c'est un peu plus indépendant, tout ça. au final, c'était quoi l'envie derrière le fait de franchir le pas pour prendre un chien?
Moi, j'aimais bien l'aspect, le fait que le chien t'accompagne plus que le chat. Le chat, c'est vraiment un animal d'appartement ou un animal de maison, mais on se promène pas avec son chat, on emmène rarement son chat en voyage, on promène pas son chat, on joue pas vraiment avec son chat en extérieur. Et moi, ce que j'aimais bien avec le chien, c'est que le chien, il peut participer. Quand tu pars en voyage, tu peux emmener le chien, tu peux jouer avec, tu peux faire des longues promenades, tu peux courir avec. Moi, ce que j'aime beaucoup marcher, j'aime bien avoir un accompagnement, et le chien, c'est un super partenaire pour la marche,
ouais,
et pour la randonnée. Et donc moi, c'était l'aspect énergique du chien, moi, qui me manquait. Et puis j'ai toujours aimé les animaux, on a toujours tous les deux adoré les animaux. Et on s'est dit, bon bah voilà, maintenant on a l'occasion d'en avoir, on va se débrouiller. Après, on est assez actifs, on voyage pas mal. Mais l'important, c'est d'avoir des gens autour qui de confiance et qui sont comme toi, qui peut aller promener Pipa, comme ma belle famille qui peut l'accueillir dans une maison avec jardin et tout, qui adore les animaux aussi. Quand on est bien entouré, je pense que les animaux peuvent supporter ça.
Et donc, en parlant de voyage, tu as une petite camionnette que tu as aménagée, ouais, et tu pars régulièrement
J'ai un van aménagé dans lequel je peux dormir. Et du coup, je voyage avec mon chien dans ce van régulièrement. Et récemment, j'ai même emmené mon chat pour un petit week-end pour tester à la mer.
Et tu m'avais raconté que pour préparer un peu ton chat au premier voyage, tu l'avais mise dedans pour l'habituer déjà aux odeurs,
ouais,
aux trucs.
Ouais, on l'a mise un peu dedans. Les chats sont quand même plus sensibles au changement d'environnement. Donc on l'a mis un peu dedans, elle a visité tout le truc, elle a fourré son nez partout. Et puis ensuite, on l'a emmené.
Tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé? Tu l'as emmené une seule fois pour l'instant?
Ouais, je l'ai emmené une seule fois. On avait fait un petit test, on était allé à Fontainebleau.
Ok.
Pour la faire un petit test, voir aussi si on pouvait un peu la promener en laisse. Étonnamment, c'est possible de promener les chats en laisse, mais c'est plus eux qui te promènent que l'inverse.
Mais elle s'est laissée faire? Elle n'était pas perturbée d'avoir un harnais ou un truc? Et surtout d'être attachée?
Le harnais, on l'a habitué aussi, on l'a mis quelques jours avant pour qu'elle s'habitue. Donc au début, elle a essayé de l'enlever, puis au bout d'un moment, c'est passé. On lui a mis un petit badge GPS, ouais, sur le harnais au cas où on la perde. Tu sais, ils vendent des trucs comme ça, c'est sur abonnement, il faut le recharger tous les 2-3 jours.
J'ai ça pour les chiens en balade, certains chiens de GPS.
C'est rassurant, surtout. Et donc, on l'a, quand on la sortait du van, on la tenait en laisse. C'était pas évident au début. Mais en fait, j'ai l'impression, moi, que c'était un mélange pour elle de peur et de curiosité.
Ouais.
C'est-à-dire que d'un côté, il y avait la peur qui disait attention au nouvel environnement, machin, quand t'es quasiment jamais sorti de son appartement, donc c'est quand même un gros choc, surtout quand tu l'emmènes voir la mer. Et d'un autre côté, il y avait la curiosité de vouloir aller tout voir, vouloir fourrer son nez partout. Et étonnamment, c'était amusant aussi, elle était très guidée par Pipa, okay, le chien.
Elle lui faisait confiance, en fait.
Ouais, on a fait des balades sur la plage. Alors, on s'est mis vraiment sur une plage déserte, il y avait pas d'autres chiens ni rien. Le risque aussi, c'était ça, c'est qu'elle se fasse attaquer par un chien, mais bon, on s'est mis exprès sur une plage déserte. Et il y avait Pipa qui se baladait comme une folle. Et en fait, Wendy, donc le chat, utilisait un peu Pipa comme une boussole, quoi. Elle la suivait, c'était rassurant pour elle de nous avoir tous autour d'elle.
En fait, j'avais lu un truc qui fait comprendre plein de choses, c'est que les chiens sont assez vifs, ils n'ont pas trop peur, ils y vont,
ouais,
parce que les chiens sont des chasseurs. Ouais. Et ils ne sont pas chassés, alors que les chats sont chasseurs et chassés.
Oui, c'est vrai.
Et
ouais,
donc
c'est
ils sont vachement plus prudents. Et donc voilà, un chat, quand tu changes de territoire, quand il arrive dans un endroit qu'il ne connaît pas, ouais, il prend forcément plus de temps à découvrir l'environnement, parce qu'il vérifie qu'il n'y ait pas de danger autour, en fait.
Ouais, ça fait sens, ouais.
Mais ouais, donc j'avais vu une vidéo sur Instagram du chat en laisse et Pipa qui court à côté, mais je trouve ça tellement génial, ça me fait rêver, j'adore. Mais je pense que si je fais ça, mon chat, ça passe pas.
Ah ouais, pourquoi?
Elle est ultra sauvage.
Ouais.
Déjà, pour lui mettre une laisse, je pense qu'elle va se débattre, elle va se rouler, enfin, ça va être difficile. Elle a 13 ans déjà, donc elle est
un peu âgée. Elle a déjà ses petites habitudes, quoi.
Et puis, ouais, non, je sais pas, j'aurais... Je sais pas. Avec Omi, elles se mettent des petites claques de temps en temps. Elles sont pas hyper complices.
Ouais.
Donc, mais bon, pourquoi pas. Après, elle sort beaucoup quand je rentre en Bretagne. Elle est à la campagne, dans la forêt. Elle fait sa vie de chat. Mais,
ouais, ça pourrait. Hein.
Mais le principe de voyager avec son chat est vraiment top. Trop fan.
Est-ce que t'as un pire souvenir, pour mettre un peu les pieds dans le plat, sur l'évolution de Pipa, son éducation à la maison ou ailleurs? On va faire pire et meilleur souvenir, quoi.
Pire, tu veux dire comme si c'était une énorme bêtise?
Ouais, la plus grosse bêtise qu'elle ait pu faire.
Ouais, bah ça, elle nous a coûté cher. Elle a bouffé pas mal de AirPods.
Aïe.
Ça, c'est un truc, je sais pas ce qu'elle a avec les AirPods, mais elle nous a bouffé 3 paires de AirPods.
Ah, quand même, ouais.
Donc à 179 euros la paire, ça commence à faire cher. Elle a mangé aussi des écouteurs d'amis qui sont venus à la maison, qui ont osé les laisser traîner dans leur sac. Elle a mangé.
Ah,
elle
va chercher les écouteurs dans
ouais,
le sac.
Ouais, elle va chercher.
Elle fouille.
Elle est comme Mia, là, c'est Bibi.
Donc elle a mangé pas mal de trucs de valeur. Et sinon, en fait, la plus grosse difficulté pour nous avec Pipa, c'était la propreté quand même. Parce que c'est assez décourageant en fait. Quand, tu vois, moi j'essaye vraiment quand même de. On a mis en place tout un système, c'est-à-dire qu'on lui a appris aussi à faire dans la douche quand elle veut faire pipi, pour qu'elle, okay. quand elle ne peut pas se retenir toute la nuit ou toute la journée. Et donc on a mis un système pas possible avec un réflecteur pour les voitures, qu'on a mis une sorte de rétroviseur pour qu'on puisse voir du canapé si elle est bien okay. dans la douche, pour qu'on puisse la récompenser pile au bon moment et pas 20 minutes après.
Oui.
Et en fait, il y a eu des périodes où elle était parfaitement propre pendant 3 semaines, 1 mois et tout. Donc on s'est dit c'est bon, c'est gagné. Et en fait, on relâche un peu la tension, on arrête de la récompenser, etc. Et il y a un moment, elle est perturbée par quelque chose ou je ne sais quoi, et ça recommence. Et donc, c'est un peu décourageant à chaque fois de se dire, on pense y être, on a fait beaucoup d'efforts pour ça,
imaginaire.
Et en fait, elle n'y est pas encore. Mais ça, après, c'est spécifique aussi à notre chienne. Je sais qu'il y a, y a d'autres chiens ou d'autres gens qui arrivent beaucoup mieux, où c'est beaucoup plus rapide.
Mais vous aviez fait appel à un éducateur ou pas pour ça ?
Non, on aurait peut-être dû, ouais. On aurait peut-être dû. Non, moi, je regardais des conseils sur Internet, j'ai essayé de les appliquer.
Ok.
Mais c'est peut-être une solution.
Et le plus beau souvenir avec elle ?
Plus beau souvenir, moi ce que j'adore, c'est les voyages en van avec elle, où on va dans des contrées. L'avantage du van, c'est que ça nous permet d'aller dans des endroits très sauvages, et donc où elle peut courir. C'est un chien de course, comme le lévrier. Alors on dit partout sur les fiches sur internet par rapport à cette race, ils disent que c'est un chien qui se porte bien en appartement. Moi j'aurais quand même mis des nuances, c'est-à-dire que c'est un chien qui a besoin de courir. Et dans un appartement, surtout à Paris, va trouver un endroit pour la faire courir. Donc moi je suis content qu'elle puisse sortir avec toi le lundi pour faire la balade. Mais sinon, dès que je peux, j'emmène en voyage. Le meilleur endroit c'est sur la plage, sur une grande plage à marée basse.
Et puis j'adore le sable en plus.
Ouais c'est ça, sur une grande plage à marée basse, j'ai des scènes magnifiques où elle court comme une dingue dans l'eau en poursuivant les mouettes. Enfin vraiment, ça c'est un vrai plaisir, parce que tu sens qu'elle... Qu'elle passe un vraiment bon moment. Quoi.
Ouais. Oui, parce qu'à Paris, finalement, à part quand je l'emmène à Vincennes, tu peux pas du tout la lâcher. T'as pas du tout d'endroit où tu peux la laisser.
Non, c'est compliqué. Il y a un parc à chiens qui est pas juste à côté, qui doit être bien à 20 minutes à pied.
À d'enfer.
Ouais. Et le problème, en fait,
il
c'est
est
que.
Petit, hein.
Ouais, c'est ça. Il est petit. Et puis, Pipa, elle a quand même un peu peur des autres chiens. Donc, s'il y a d'autres chiens, en fait, elle va pas courir, elle va pas s'amuser, elle va être tout le temps dans nos pattes, donc ouais. Ça sert à rien, tu vois. Donc. Donc il n'y a pas vraiment de solution, le mieux c'est de l'emmener voyager avec elle, sinon je fais des longues promenades, donc j'ai fait marcher longtemps, parfois je cours un peu avec elle dans la rue, mais bon c'est limité quoi.
Oui.
Je cours pas aussi vite.
Oui, parce qu'en fait le chien à la maison sera très très calme, mais si tu peux la sortir au moins 2 heures par jour quoi, qu'elle puisse se dépenser. Mais bon, et tu pars quand même assez régulièrement en van.
Ouais, en ce moment oui.
Donc Elle a une vie plutôt cool.
Est-ce que tu as des recommandations particulières pour... C'est un whippet, hein, c'est ça ?
Non, un lévrier italien.
Arrêtez avec ça.
C'est ce que je viens de dire. Vous êtes un peu dur de la faille. Des recommandations particulières, du coup, pour ce type de race, précisément ?
Ouais. Alors, je pense déjà, c'est un chien qui demande plus d'attention que les autres. C'est-à-dire que je ne conseillerais pas aux gens qui passe 8 heures par jour au bureau et qui le laisse à la maison toute seule.
De toute façon, n'importe quelle race. Hein. Les gens,
ouais,
si vous n'êtes pas, si vous êtes 8 heures par jour en dehors de chez vous et que votre chien est seul, ne prenez pas de chien.
Ouais, c'est vrai. Mais alors, on sent vraiment quand tu rentres à la maison qu'elle n'est pas été sortie depuis un moment, qu'on ne s'est pas occupé d'elle pendant un moment. Elle est complètement agitée, elle te tourne autour, elle te suit partout, elle fait des grands bonds, des sauts partout. Et ça ne s'arrête pas. En fait, il faut jouer avec elle, il faut prendre du temps pour elle. Et sinon, elle est perturbée, elle fait plus de bêtises et tu le ressens. Et elle est... Donc là où elle est le mieux, là où elle est le plus sage, c'est quand elle a sa dose de course, quand elle a sa dose de batte. Par exemple, voilà, quand je voyage avec elle en van, elle est vraiment adorable. Tu vois, dès qu'on rentre dans le van, elle s'allonge, elle bouge plus, elle fait pas de bêtises. Donc c'est vraiment quand elle est enfermée, elle a besoin d'une plus d'attention, je pense, que les autres. Et c'est des chiens, c'est peut-être des chiens où c'est bien d'en avoir 2 ou 3 histoire qu'ils puissent jouer ensemble. Ces chiens qui sont très joueurs. Moi, je joue beaucoup avec le chat. Ils se poursuivent dans tout l'appartement.
Okay.
Donc c'est bien d'avoir peut-être soit un enfant qui peut jouer avec, soit d'autres chiens, soit avoir soi-même du temps pour le faire.
Et donc vous envisagez d'avoir 2 ou 3 autres lévriers ?
Non, faut pas déconner. Un chien et un chat, c'est déjà beaucoup de contraintes, c'est beaucoup de responsabilités. Et pour l'instant, non. Mais moi, je me verrais bien ouvrir un truc quand je serai vieux, ouvrir une sorte de grande maison à la campagne où je récupérerai les lévriers espagnols, des trucs comme ça, tu vois, parce que ça peut être sympa comme projet.
Il y a plein d'assos qui récupèrent...
Ouais.
Qui viennent d'ailleurs, je crois que ça vient beaucoup d'Espagne, non ?
Il y a des trucs horribles en Espagne. Moi, j'ai vu je me suis renseigné là, il y a peu de temps. Il y a vraiment des sales trucs où il les torture, il les maltraite. Et pourtant, c'est des chiens, les lévriers, c'est vraiment les chiens les plus gentils. C'est des chiens très soumis, très gentils, très. Et donc, du coup, ils profitent évidemment de cette gentillesse-là. Le chien, il peut se faire battre, il peut se faire maltraiter, il peut se faire traîner dans la boue, vraiment mal nourri, toutes les pires horreurs, et il va continuer à être fidèle à son maître, quoi. C'est ça qui est en même temps formidable pour ce chien, en même temps terrible, parce qu'il y a des maîtres qui en profitent, quoi.
Enfin, c'est souvent le cas, les chiens sont gentils et ils se rendent pas compte que. Il y a des gens mal intentionnés ou...
Bien sûr, enfin, ouais, ils peuvent pas savoir. Hein.
Le chien est meilleur ami de l'homme, mais on peut pas trop dire le contraire toujours.
Concernant la nourriture, je sais que tu as un truc assez particulier, bien à toi, que peut-être 10% des propriétaires de chiens font. Nous, on s'y met progressivement, mais est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais et pourquoi tu la nourris comme ça?
Ouais, bonne question. Moi, je nourris mes animaux au barf. Alors en fait, c'est tout simple, c'est juste de la viande crue. Mais on dit barf parce que c'est un truc un peu pour se la péter, c'est biologically adapted raw food, donc alimentation crue biologiquement adaptée. Et c'est vrai qu'on est parti du principe, enfin, moi j'ai toujours fait gaffe à la manière dont je me nourris moi-même, et je sais qu'il y a pas mal de croyances sur la nourriture qui sont fausses et qu'il faut se méfier de ça. Donc quand on a eu, d'abord c'était pour le chat qu'on s'est intéressé à ça, quand on a eu un chat on s'est dit on va essayer de bien la nourrir. Et les croquettes, enfin moi j'ai jamais eu vraiment très confiance dans la nourriture industrielle pour chien et chat, surtout qu'ils mettent des choses qui sont pas vraiment cohérente avec le régime naturel d'un chien ou d'un chat, c'est-à-dire des pommes de terre, des céréales, du blé, des produits animaux, on sait pas trop d'où ils viennent.
Comment ça, un chien ne se fait pas cuire des patates?
Ouais, c'est ça. En fait, c'est logique. Moi, ça me saoule parce que quand tu vas chez la plupart des vétérinaires, ne comprennent pas ça. Et t'as vraiment envie de leur dire, mais vous avez déjà vu un animal, je sais pas, un loup dans la nature en train de se faire cuire. De faire cuire des pommes de terre pour se faire de la pâtée. Enfin, l'alimentation naturelle pour un chien, c'est ni des croquettes ni de la pâtée. Un chien n'est pas croquette au bord, tu vois. Un chien est carnivore, donc ça mange de la viande crue, saignante. Et donc moi, ça m'a toujours paru logique. Et du coup, j'ai découvert qu'il existait cette façon-là de nourrir les animaux, donc le barf, qui consiste à essayer de prendre la viande crue, plutôt fraîche, plutôt de bonne provenance si possible, et de manière un peu diversifiée. On va rajouter un petit peu dedans, si on va faire ça bien, on va rajouter un tout petit peu de légumes, un petit mélange de légumes, parce qu'en fait ça correspond à la panse, enfin à l'estomac de l'animal de la proie.
Quel type de légumes tu mets?
Alors moi c'est pas moi qui m'en occupe, mais je vais venir après. Et en fait le chien dans la nature, s'il chasse un lapin, il va pas seulement manger la viande du lapin, il va aussi manger les os, il va manger les yeux, il va manger le cerveau, il va manger l'estomac, et l'estomac contient un peu de légumes, c'est pour ça que les chiens et les chats doivent manger un petit peu de légumes. Et en fait, il va tout bouffer, hein, c'est-à-dire qu'il va rien laisser, il va manger les os, les croquer et tout, il n'y a aucun problème. Et évidemment, bon, je ne vais pas ramener des lapins crus comme ça à donner à mon animal. Donc, il y a plein de.
Pourquoi pas?
Il y a plein de services qui proposent de livrer de la viande comme ça, surgelée, donc tu t'en fais décongeler une par jour, elle reste fraîche, etc. Sauf qu'il y en a différentes qualités, il y en a souvent, c'est des mix, en fait, tout est haché, donc ce n'est pas vraiment ce qu'il y a dedans. Tu sais, c'est un peu comme les nuggets, quoi. Tu sais pas ce qu'il y a dedans, donc c'est probablement qu'il y a des choses pas top. Et j'en ai découvert, donc c'est une nouvelle société. Vraiment, je vais faire la pub parce que je les adore. Ouais. C'est une fille qui fait du contenu aussi sur Internet qui a lancé ce truc-là. Et ça s'appelle... faut que je retrouve. Prime Instinct. Voilà, Prime Instinct.
Ils sont à Toulouse, hein, c'est ça?
Ils sont à Toulouse, je crois. Ouais. Et ils livrent de la viande fraîche barf, adaptée dans des petits sachets, en fait, qui correspondent au poids de ton animal, avec le nom de ton animal, avec un mélange différent pour chaque jour de la semaine. Ils font ça vraiment bien. Et ils font comme toi. C'est-à-dire qu'ils filment tout et ils mettent tout sur Instagram sous forme de story. Donc tous les jours, tu vois le boucher qui vient, qui coupe sa viande, machin. Il y a toute la petite équipe, chacun a son truc. C'est vraiment une petite société pour l'instant. Et alors, c'est un petit peu cher, forcément, parce que c'est plus cher que des croquettes, mais bon, c'est normal, c'est de la viande fraîche, française et tout. Mais c'est génial parce que moi, j'ai à m'occuper de rien. Il suffit de. Voilà, j'accepte une livraison tous les mois. Et je laisse au congélo et il suffit de la veille, je décongèle les deux, je les mets au frigo et le lendemain c'est bon, c'est prêt. Donc moi j'ai rien à faire et j'ai vraiment des trucs de qualité et je le vois sur les animaux, le poil des. Bon après ils sont jeunes encore, mais ils ont un poil très soyeux, ils ont énormément d'énergie, ils sont jamais malades. Donc je pense que c'est une bonne façon de.
C'est sûr, mais c'est super que tu fasses ça.
Il y a tout dedans, il y a le petit mix végétal, il y a un peu d'huile de saumon pour avoir le gras, il y a des os qui vont directement croquer, bouffer. Et mon animal, enfin aucun de mes animaux s'est jamais entaillé l'intestin ni quoi que ce soit avec un os.
Donc tu as un sachet par jour pour le repas.
Un sachet par jour et par animal.
Pour le chien et le chat.
Pour le chat, ils vont mettre des os un peu plus petits, voilà, ils vont faire gaffe à tout ça.
Okay.
Donc c'est vraiment bien, hein. Moi je conseille, si je peux faire la pub de ce truc là, c'est génial.
Ouais, c'est top. Bah, après il y a deux écoles, enfin, c'est vrai que le barf c'est naturel, c'est super. Nous on a rencontré un couple qui s'est lancé aussi dans la nourriture ménagère, donc c'est de la viande aussi, des légumes, que des bonnes choses. Et pour le coup, eux ont trouvé une usine, donc ils vont faire, ils stérilisent les sachets.
Ouais.
Donc c'est facile pour la conservation.
Ouais.
Parce que pour le coup, si t'as un petit congélo.
Oui, ça c'est vrai, il faut avoir un gros congélo. Ouais. Après, moi je dis pas que les gens qui n'ont pas les animaux au barf sont des monstres, pas du tout. Hein. C'est-à-dire que le barf, pour moi, c'est le top du top, mais le fait de donner de temps en temps. Un steak de donner de la pâtée de qualité, c'est déjà très bien. Tout sauf le friskies, quoi. Moi, c'est ça ma philosophie.
Mais en fait,
philosophie.
À l'époque de nos grands-parents, les chiens étaient nourris avec la. Ils avaient les restes.
Bah, c'est toujours mieux que les
croquettes. Et la croquette a été une révolution, gain de temps. Oh là là, c'est merveilleux, acheter des croquettes, c'est super. Et donc, c'est rentré comme ça dans la société. Mais évidemment que les croquettes, il y a des trucs là-dedans qui n'ont rien à faire.
Il suffit de voir comme les animaux vieillissent mal. Il y a tellement d'animaux de compagnie qui finissent malades, avec des cancers, des ulcères, des trucs pas possibles. C'est pas normal, un animal est censé mourir de vieillesse comme un humain, on n'est pas censé choper tout un tas de maladies morbides, quoi.
C'est sûr.
Donc à partir de ce principe là, c'est bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Et c'est pas de la faute des gens, les gens ils savent pas, on leur dit, le vétérinaire te dit que c'est bon. Donc,
mais oui, à partir du moment où c'est vendu chez un médecin du chien, tout le monde va penser que c'est les bonnes choses.
Mais le vétérinaire te dit que les cornflakes c'est bon pour toi aussi. Enfin, tu vois, te dit que les cornflakes c'est bon pour toi. Donc,
Et l'éternel débat, même aujourd'hui autour du bio, c'est cool de manger bio, mais ça reste cher. Toi, tu penses que tu as un budget de combien environ mensuellement pour tes animaux, en dissociant la nourriture, le veto, tout ça, enfin, pour essayer que les gens puissent se projeter sur ton mode de nutrition pour eux, et même sur le fait de se projeter avec un chien, parce que ça fait partie des barrières au final.
Ouais. Il y a presque tout qui passe dans la nourriture pour le budget. Après, je ne saurais plus exactement combien c'est, il faut regarder les prix sur le site de Prime Instar, je ne me souviens plus, mais c'est plus cher, enfin oui, c'est quand même nettement plus cher que les trucs de supermarché.
Et c'est sinon, environ 3, entre 3 et 5 euros par jour, un truc comme ça.
Ouais, je dirais ça à peu près, ouais. Peut-être. Ouais. Ce qui reste raisonnable, après, quand on a un animal.
C'est un budget, mais oui, c'est. Nous, on mange évidemment plus, mais bon, c'est pas.
Après, il y a les voyages aussi qui coûtent cher, notamment l'avion. Prendre l'avion avec son chien, il y a toujours un ticket de. Moi, j'appelle la taxe sur l'animal, c'est 50 euros par billet. Que ce soit aller-retour, peu importe où tu vas. Moi, ça m'est arrivé d'aller, je sais pas, de faire un vol Paris-Marseille. Moi, mon vol coûtait 35 euros, mais pour mon chien qui était devant moi, sous le siège d'en face, qui prenait aucune place et tout, c'était 50 balles aller, 50 balles retour.
Tu peux quand même la prendre avec toi.
Oui, je peux la prendre avec moi.
Parce qu'elle est assez grande quand même, c'est moins de.
Elle tient dans un panier que je peux mettre devant. Pour un petit vol, ça va, je peux la prendre avec moi. Je préfère ça plutôt que la mettre toute seule en soute. C'est quand
même. Non, mais attends, en plus, j'ai lu un article cette semaine. Apparemment, il y a plein d'animaux qui sont perdus dans les soutes, enfin dans les avions.
Angoisse, ça.
Et il y a des gens là en ce moment qui cherchent leur chat à Orly depuis 40 jours.
Oh la vache.
Mais tu te dis, enfin, c'est pas possible en fait. C'est n'importe quoi. Donc jamais je mettrai mon animal en soute.
Ouais. Non, c'est à part quand on n'a vraiment pas le choix, mais bon, sinon. Mais bon, voilà. T'as pas mal de taxes sur les animaux. Moi, je trouve aussi à Paris, c'est pas génial d'avoir. Enfin, les animaux sont pas super, super bien acceptés. Il y a très peu de parcs qui acceptent les animaux. Moi, j'étais au Luxembourg avec mon chien. Le Luxembourg, c'est un des seuls parcs qui accepte les animaux, et seulement dans seulement dans un quart du parc. Et à un moment, genre, je promenais mon chien. C'était le matin. Il y avait personne. Il était en laisse. Et je dépasse les frontières l'espèce de frontière invisible que apparemment, il y a seul le gardien connaît. Et là, d'un coup, le mec me poursuit en hurlant. Ah, ça va pas. Vous êtes pas sur mon truc. Ça va, quoi, tu vois, ton chien, il va pas. Enfin, tu vois, c'est pas comme si. Moi, je comprends qu'il faut pas laisser les chiens courir partout, embêter les coureurs en liberté et tout. Je comprends qu'il faille le tenir en laisse. Mais de là à pas pouvoir les promener dans un parc, si tu ramasses, si tu fais tout proprement, c'est abusé quand même.
Oui, mais c'est vrai que Paris est pas hyper dog friendly.
C'est pas hyper dog friendly, non.
Et juste pour terminer sur l'histoire économique, le prix de ce chien, le lévrier. Quelque chose.
Italien.
Tu
suis, hein.
Quel est-il?
Je sais plus, mais c'est assez cher aussi. C'est des pures races. C'était plus de 1000 euros et moins de 3000.
Ouais.
Tous les chiens de race un peu, j'avais envie de dire précieux, mais tu vois, comme ma chienne, comme les petits Spitz, les lévriers. En fait, les chiens de chasse, j'ai envie de dire, les chiens hyper costauds, ils vont pas coûter très cher. Peux en avoir à moins de 1000 euros. Enfin, pas très cher. C'est très cher, mais je veux dire, c'est moins cher que les autres. Et les petits chiens comme les nôtres, ben là, tu peux monter à 2000, 3000, 5000. Aux États-Unis, j'entends qu'il y a des chiens qui sont vendus 15 000 $, 30 000 $.
Incroyable. Ça doit être forcément 20-30% moins cher en Espagne, logiquement, non?
Je pense, je sais pas.
On pourrait s'enseigner.
Ceux qui en veulent, ils se débrouillent.
Mais si on peut, c'est quand même d'adopter. Il y a tellement de chiens dans les refuges, ouais, chiens, chats.
C'est vrai que c'est le message qu'on essaie de faire passer sur le podcast.
Oui, vous avez raison.
Et moi, le premier, j'étais pas du tout là-dedans. J'y pensais même pas. J'étais plus comme spontanément aller chercher dans les refuges. Enfin, pas dans les refuges, dans les
élevages.
Dans les élevages.
Pour moi, c'était la même chose au départ, avant d'avoir ce job. Quand j'ai eu Omi, je l'ai eu dans une animalerie. Aujourd'hui, je m'arracherais les cheveux. Jamais de la vie, j'irais dans une animalerie. Ouais. Mais on en parle de plus en plus, et c'est tant mieux.
Et ouais, c'est chouette de déjà rendre service, faire une bonne action. Et en plus, pourquoi pas découvrir une nouvelle race, un nouveau caractère, un nouveau physique.
Ouais, il y a plein de choses à découvrir. Il y a plein de mix aussi dans les refuges, mais c'est trop mignon.
C'est vrai, quand on choisit souvent les animaux quand même à la tête physique, du client.
Bien sûr.
Et c'est vrai que ça peut être bien. Je sais qu'il y a des gens qui partent, qui vont dans des à la SPA ou qui vont dans des refuges. Et parfois c'est le chien qui les choisit, quoi, qui vient les voir. C'est pas forcément celui qu'il voulait. Bah, Natou, c'était ça, elle en avait parlé dans sa vidéo. Elle avait dit, nous on voulait aller chercher un petit lévrier italien tout mignon, tout gentil qu'on avait vu sur la photo, et finalement on se retrouve avec un veau, un truc beaucoup plus gros. Parce qu'en fait, c'est lui qui est venu leur voir et ils ont un coup de cœur. Donc ça peut être bien. En fait, l'idée quand tu vas acheter un chien dans un élevage, c'est que le chien il est créé pour toi. Tu sais précisément ce que tu veux. Et en fait, le chien, il est là et il se trouve que voilà, parce qu'il y a une demande, il y a une offre, donc le chien est créé pour toi. C'est vrai que le mieux, c'est d'aller dans un élevage parce que tu récupères un chien qui a été créé pour quelqu'un d'autre, mais finalement qui s'est retrouvé abandonné. Donc tu sauves un chien littéralement.
Ouais. Et c'est vrai que quand t'as un chien, t'as envie de l'avoir chiot justement pour ce que tu disais, de pouvoir le former un peu, le mettre un peu à ta sauce.
Pour moi, c'est important, c'est pour ça que je suis dans un élevage.
Et t'as des gens qui se retrouvent avec un chiot qui n'arrivent pas à l'éduquer et qui le mettent dans les refuges, et t'as des chiots, mais des chiots pure race, des bâtards, enfin t'as de tout.
Mais je pense aussi qu'il y a des gens qui ont peur, ce que je peux comprendre aussi, enfin, moi c'est mon cas aussi d'ailleurs, qui ont peur de récupérer un chien dans un refuge, qui a eu des traumatismes par le passé, qui a des. Voilà, ça peut être très difficile de gérer un chien qui a peur de tout, ou qui est agressif.
Mais alors, les chiens agressifs, je pense qu'ils ne sont pas gardés dans les refuges, et pour le coup, les bénévoles connaissent les chiens et ils peuvent te dire exactement lui il est comme ça, il a peur de ci, il a peur de ça, ou il est ok avec les enfants, pas avec les chats, enfin, tu vois. Mais c'est vraiment on va en parler de plus en plus parce que c'est vraiment une cause.
Moi je m'y étais pas vraiment intéressé avant de prendre Pipa, et après après quand j'ai vu tous les trucs sur les vrais espagnols maltraités et tout, je me suis dit que c'est sûr que la meilleure chose à faire, en effet, c'était de. Si je devais en reprendre un, ce serait comme ça, probablement.
Mais moi, je ne jette absolument pas la pierre aux gens qui vont dans les élevages chercher leur chien. Enfin, je serais bien la dernière personne à pouvoir le faire, vu ce que j'ai fait. Mais bon, en tout cas, peut-être le prochain, tu vois, on ne sait jamais. Ouais. On ira voir les refuges.
Voilà. Pour revenir à Pipa, quels sont les petits noms que tu peux lui donner à la maison, que vous pouvez lui donner, desquels vous pourriez peut-être avoir un peu honte? C'est quand même le plus drôle dans l'histoire.
On l'appelle souvent Poupou. Parce qu'un jour on a dit ça, puis elle était complètement excitée.
C'est beaucoup moins chic.
Et donc, c'est beaucoup moins chic, ouais, c'est ça. Ouais. C'est la version à la maison, tu vois. Et Poupou devient complètement dingue. Okay. Il y a un truc, c'est vraiment la honte. C'est pour. Tu sais, parfois il y a un mot que tu dis où le chien comprend qu'il va manger quand tu dis ce mot-là, tu vois. Oui. Donc il se réveille complètement, il devient complètement fou, c'est rigolo. Et nous, ce mot-là, c'est Kékette. Parce qu'en fait, on regardait les forums là sur le groupe Facebook de l'élevage. Et à un moment, justement, quelqu'un posait la question, c'est quoi le mot qui rend votre chien complètement dingue? Et il y en a une qui a dit, nous, on lui a appris que le mot croquette, ça veut dire qu'elle avait mangé. Et elle dit, bon, maintenant, on dit plus croquette, on dit Kékette. Elle a trouvé ça tellement ridicule. On s'est mis sans faire exprès à commencer à le faire. Et maintenant, c'est devenu le signal. Si tu viens chez moi et que tu dis Kékette, il n'y a plus pas qu'à devenir. Et Wendy aussi, les deux vont devenir complètement.
Oui, mais attends, tu fais une petite intonation quand même. Tu le dis pas juste comme ça. C'est le truc. Bah voilà, c'est le truc qui les rend.
Alors, on va manger. Là, c'est pareil. C'est le festival, quoi.
Est-ce que Pipa a une petite caractéristique, un truc un peu rigolo qui la différencie des autres, dont tu es très fière?
C'est un truc qui est marrant. Je sais pas si j'en suis très fier, mais c'est très drôle parce que Pipa ne supporte pas qu'on touche quelqu'un d'autre dans la maison qu'elle, tu vois. Donc si on touche le chat ou si on se fait un câlin entre amoureux, elle va venir et elle va réussir à s'immiscer pile au milieu, tu vois, genre, si on se fait un bisou, il y a Pipa qui vient foutre sa tête vraiment pile au milieu, tu vois.
Mais pas du tout en mode agressif, juste non, elle vient prendre sa part.
Elle se mouvoie tel un serpent, tu vois, pour essayer de se caler pile au milieu. Et elle va toujours réussir, quand on est deux, elle va toujours réussir à trouver la place qui est pile équidistante de toi et l'autre. C'est vraiment, c'est elle ou rien d'autre.
Depuis le début, elle est comme ça.
Ouais, c'est parce que c'est très touchant, ouais, c'est très mignon. C'est vraiment adorable de la voir apparaître, c'est de s'immiscer comme ça. Et se retrouver toujours au milieu. Quoi qu'il se passe, elle veut toujours être au cœur de l'action. On l'appelle BFM Pipa, toujours au cœur de l'action, tu vois. C'est toujours au centre du truc.
Et alors, Pipa, est-ce qu'elle dort dans votre chambre ou elle a quand même son coin toute seule?
On veut pas qu'elle rentre dans la chambre. Exceptionnellement, quand on voyage, elle peut monter sur le lit, etc., quand on est à l'hôtel. Mais sinon, on veut mettre une limite sur la chambre. Donc, elle dort dans le salon ou dans la salle de bain, elle a un panier sous le lavabo.
Ok. Oui, donc c'est pas trop un chien collé à vous non plus. Enfin,
on laissait la chambre ouverte, je pense qu'elle dormirait avec nous.
Ouais. Et alors, ça fait quelques mois que j'ai Pipa en balade. Elle est venue 4-5 fois, je pense.
Ouais.
Parce qu'elle est assez peureuse avec les autres chiens.
Ouais.
Est-ce que depuis qu'elle vient, t'as pu voir des petites améliorations dans la rue? Est-ce qu'elle est un peu plus détendue avec les autres?
Elle est toujours assez timide, ça dépend des chiens. Il y a des chiens où, miraculeusement, elle s'entend vraiment bien avec, elle joue avec, elle reprend un peu après. En fait, il faut qu'elle trouve un chien un peu à son niveau. Si elle trouve un chien qui est un peu peureux aussi,
ouais,
elle va avoir beaucoup plus la confiance. Mais si elle voit un chien qui est un peu dominant, qui se jette un peu sur elle, elle va flipper.
Et ben, tu dis ça et ça me fait penser à un petit chien que j'ai qui habite à côté de Luxembourg, qui est assez flippé. Et ils se sont jamais rencontrés et je pense que ça pourrait faire carrément un match.
Ouais, pourquoi pas, ouais. Bonne idée. Ouais.
Ce serait très cool.
Vous seriez justement... vous avez envie de lui faire une portée ou c'est un truc...
Pour l'instant, non. Mais en fait, si on le faisait, il faudrait trouver un moyen de... Enfin, parce que nous, on ne veut pas s'occuper de 5 pipas, tu vois, 5 mini-pipas. Donc, si on avait une solution sûre pour que chaque bébé ait une vie heureuse après, pourquoi pas. On pense que ça pourrait être une bonne chose, qu'elle en ait au moins une fois une dans sa vie. Mais pour l'instant...
C'est quoi la moyenne d'âge de cette race?
La moyenne d'âge l'espérance de vie,
l'espérance
tu veux dire?
L'espérance
de vie, je crois que c'est un petit peu plus vieux. Tu sais, les petits chiens, je crois qu'ils vivent un peu plus longtemps que les gros chiens, il me semble. Ça doit être 15 à 17 ans, quelque chose comme ça.
Ouais, c'est quand même beau. Et là, elle a
2 ans.
Elle a 2 ans. Ouais, on a encore du pain sur la planche.
Ça vous laisse de belles années devant vous.
C'est pas, ouais. Elle n'est pas encore mature. Pas tout à fait. Enfin, elle pourrait
avoir
des bébés.
Je ne sais pas si elle sera mature un jour, au sens premier du terme. Mais ouais, non. Ouais, non. Je pense que si on devait lui faire avoir une portée, ce serait un peu plus tard quand même.
Au tout début, tu nous as évoqué une rencontre avec une mamie avec laquelle tu avais eu un éternel débat autour de Whippet ou l'évrier italien.
Ouais.
Est-ce que Pipa t'a permis de faire quelques belles rencontres qui te reviennent comme ça déjà socialement?
Bah, toi notamment. On s'est rencontrés pendant que je prenais Pipa, je sais pas si tu te souviens.
Exact. Allez, grave. J'ai complètement zappé.
Et Juliette aussi, du coup.
Ouais.
Pas tant que ça. Moi, ça... En fait, quand je prenais Pipa, moi, j'aime bien être tranquille, j'ai mes écouteurs et tout. Mais c'est très difficile parce que les gens l'adorent. Et il y a des endroits où c'est encore pire. Je sais qu'à un moment, je suis allé à Barcelone avec elle. Et alors, à Barcelone, je pouvais pas faire 3 mètres. Ils adorent les lévriers et tout. Ah, un gars, ouais, ça se fait que c'est moins peligroso et tout.
Pas bien anglais.
Non, en fait, des rencontres avec le chien, pas tant que ça, en vrai.
Est-ce
c'est
que
des rencontres qui sont vraiment centrées sur les chiens.
Ouais.
Donc, pour pécho, moi, je ne conseillerais pas d'avoir un chien. C'est peut-être pas le meilleur endroit. Enfin, je sais pas vous, si vous êtes rencontré avec votre chien, j'en sais
pas. On s'est complètement rencontrés grâce à nos chiens, oui.
Ah, ouais. Racontez, c'est dingue, ça, je ne savais pas.
Mais mec, on habite le même quartier.
Ouais.
Et à l'époque, j'avais une voiture qui était floquée avec mon numéro de téléphone, promenade pour chien. Donc, je ne passais pas du tout inaperçu dans le quartier. Et Max avait vu la camionnette depuis quelques mois. Et donc, Mia, que tu connais, avait besoin d'aller se promener. Et donc, il m'a contacté pour que je promène Mia. Et on s'est rencontrés comme ça.
D'accord. Voilà. Okay.
Mais c'est vrai que sinon, j'ai noté que dans le cinquième, j'avais plus une cible grand-mère.
Ouais, moi aussi, ouais. Ouais. On est sur le troisième âge quand même en moyenne. Donc,
Et alors, tu connais ton voisin Oscar, le petit Ekel?
Oui, tout à fait.
Qui vient en balade aussi.
Ouais.
Oui, sa maîtresse m'a dit qu'elle vous croisait aussi.
Ouais, on la croise régulièrement.
Et alors, ils s'entendent bien ou pas dans la rue? Ou ils s'ignorent un peu?
Non, ça va. Ouais. Pourquoi en balade ils s'entendent bien?
Non, bah oui, ils sont cool. Enfin, alors, ils se calculent pas spécialement. Oscar, il fait un peu sa vie.
Je sais pas.
Oscar, avant qu'il vienne se balader avec nous, c'était la terreur du quartier. Il aboyait sur tout le monde. Oh, il était pas hyper friendly avec les autres.
Mais il y a des chiens, ils sont durs. Hein. Genre, ils gueulent, ils aboient et tout. Moi, je suis quand même content de ne pas avoir un chien comme ça.
je monte Mia du doigt parce qu'elle est pas très aimable.
Je sais pas comment vous faites pour gérer ça. Pour moi, ce serait tendu, quoi. Ça me...
Ouais.
Moi,
ouais.
J'ai carrément la honte, hein, je l'avoue bien volontiers. Et alors que je suis vraiment partisan d'avoir un chien et de ne pas l'attacher pour la liberté, le côté un peu cool aussi. Et Mia, elle est tellement excitée avec les autres que depuis peu, ben, je suis obligé de l'attacher, de la contrôler, tout ça. À Paris, c'est un peu relou. Après, comme tu disais, quand tu te retrouves sur une plage, c'est que du kiff. Quand t'es en rando, c'est un bonheur incroyable. Et bon, il y a deux poids, deux mesures. Il y a la vie urbaine et la vie reste du monde.
Oui, est-ce que t'as d'autres projets voyage avec Pipa et Wendy prochainement?
Alors, on a un grand projet, là, ce serait de s'installer à New York.
Génial.
Mais c'est pas encore fait, enfin, c'est assez compliqué au niveau du visa, tout ça. Mais si on s'y installe, bien sûr, on va emmener les animaux. Mm-hmm. Je pense que on va encore plus m'embêter dans la rue qu'à Paris.
C'est
parce
possible.
Que les New Yorkais, ils sont très expressifs, ils disent ce qu'ils pensent, donc je pense qu'ils vont beaucoup aimer Pipa.
Oui.
Et par contre, je me vois bien faire des longues balades à Central Park avec elle, ça pourrait être assez cool. Surtout que là-bas, ils sont beaucoup plus cool avec les chiens. Central Park, je crois qu'il y a des endroits où tu peux les lâcher.
Oui, je crois que c'est assez détendu.
Jouer au frisbee avec ton chien, c'est cool quoi.
Ah, c'est génial.
Sous combien de temps du coup le projet?
On se donne l'année. Ça peut prendre du temps en vrai, mais on se donne l'année, ouais.
Nice. Tout à l'heure, tu disais que pour tes vieux jours, tu te verrais bien avec une baraque et une maison de campagne et recueillir les lévriers esselés, les pauvres. Mais je trouve ça assez dingue parce que je connais un peu ton parcours, je sais que t'es très axé sur la liberté, c'est assez paradoxal finalement, non?
Ouais, non mais tu sais, en fait la liberté, comment dire, moi ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est d'avoir une vie vraiment choisie et de m'amuser, tu vois, de raconter une belle histoire, c'est comme ça que moi je me le formule. C'est-à-dire de regarder ma vie en rétrospective et de me dire, j'ai vraiment vécu des choses pleinement et à 100%. Et le problème de la liberté à l'extrême, c'est qu'en fait, tu vis plus rien pleinement. C'est-à-dire que dès que tu commences à t'engager sur quelque chose, tu fais trois pas en arrière en disant non, je risque de pas pouvoir en sortir. Et donc, du coup, tu fais tout à 10%. Et moi, ce que je veux maintenant, c'est tout faire à 100%. Donc, quand tu vis une histoire, tu la vis à fond. Quand tu adoptes un animal, tu le fais à fond. Si tu fais des enfants, tu le fais à fond. Et si un jour je décide de m'installer, mais c'est pour ça que je garde ça pour mes vieux jours, parce que si tu commences à faire ça, tu t'en sors pas, quoi. Tu peux pas faire ça pendant 5 ans, puis ensuite faire autre chose. Donc, je me dis, voilà, si un jour, j'en ai marre de voyager, là j'en profite beaucoup pour voyager tant que je suis jeune. Si un jour j'en ai marre, si un jour j'ai envie de me poser, si un jour ce sera probablement, moi j'aime bien la tranquillité, ce sera probablement dans une maison à la campagne. Et j'avais une tante en fait, enfin je sais pas si c'était une tante, c'était une vieille cousine, pas loin, enfin à la campagne, on avait une maison de famille à la campagne, elle habitait pas loin. Et elle avait une grande maison comme ça à la campagne et elle recueillait des animaux, elle avait tout type d'animaux, elle avait des moutons, elle avait un poney, elle avait des volailles, elle avait des oies, elle avait des chiens, elle avait des chats. Et alors son but c'était pas du tout de faire de l'élevage pour quoi que ce soit, c'était juste parce qu'elle aimait les animaux, elle les recueillait, elle les maintenait en vie, elle les gâtait, ils avaient un grand espace pour courir. Et je pense que ça la rendait heureuse parce que elle était âgée, elle était toute seule dans sa vie, elle avait pas d'enfants. Et je pense que le fait d'avoir tout ce petit monde à s'occuper, ça te permet d'avoir quelque chose à faire, de te sentir utile, de te sentir bien. Les animaux quand même apportent une grosse dose de réconfort et de plaisir, quoi. Un chien, moi je sais que enfin, j'ai jamais de chien qui est mort, mais je pense qu'aujourd'hui, enfin je peux imaginer si Pipa disparaisse aujourd'hui, je pense que la mort d'un chien c'est quelque chose de très difficile. Et j'en ai déjà parlé avec mes grands-parents et tout qui avaient des chiens, et ils m'ont dit parfois c'est presque pire que de perdre une personne humaine, parce que le chien il est tout le temps sur toi, c'est l'être le plus fidèle qui soit, finalement c'est un de tes proches les plus proches.
Et puis c'est un être qui ne te fera jamais de mal.
Ouais, c'est ça, et c'est une innocence totale. Une bienveillance totale vis-à-vis de toi, il te pardonne tout, enfin, c'est quand même un animal incroyable. Donc moi je peux comprendre que quand on devient plus âgé, on ait envie vraiment de vivre pour ces animaux-là, parce qu'ils nous donnent tellement, on a envie de leur rendre, quoi. C'est une sorte de réciprocité. C'est-à-dire que toi, en fait quand t'es âgé, t'as plus forcément grand-chose à donner aux humains, c'est triste de dire ça, mais c'est un peu vrai, c'est plus les autres qui ont à donner. Et donc avoir des animaux, moi c'est comme ça que je me le formule, c'est une façon d'avoir encore quelque chose à donner, encore quelque chose à apporter à des êtres, tu vois.
C'est beau, je pense qu'on est, on est nombreux, enfin, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui rêvent d'avoir une maison pour recueillir plein d'animaux en étant âgés.
C'est vrai que en fait je trouve qu'il y a deux points de vue. Il y a ma grand-mère qui fait de la marche et je lui dis, mais à chaque fois que je lui confie mon chien, elle me dit c'est génial, ça me force à aller dehors, ça me fait de l'exercice et tout. Mais pour autant, ce que tu disais juste avant, elle a pas envie de s'engager sur cette espèce de principe de liberté, tout ça.
Parce qu'elle est encore, en forme et qu'elle a envie de voyager.
Ouais, mais finalement, il faut quand même de la patate pour avoir une basse-cour, de la volaille, et un cheval et trois écureuils.
C'est du boulot quand même.
C'est quand même du boulot, tu vois. Bon, après, voilà, il y a plusieurs écoles, je pense. Et je voulais juste rappeler que tu avais fait ce podcast juste avant avec Kofi, qui a lui une maison à une heure de Paris et qui a pareil.
Qui a ouvert une pension pour chiens et chats et nouveaux animaux de compagnie. Et donc oui, c'est une vieille longère qu'ils ont retapée. Ils peuvent accueillir une quarantaine de chiens et c'est la maison du bonheur parce qu'il n'y a pas de chenil, il n'y a pas de box, il n'y a rien.
Il y a une piscine pour chiens.
Oui, il y a une piscine. Ouais, non, ça c'est vraiment le bonheur. Mais pour le coup, bah, c'est du non-stop. C'est du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc c'est intense.
Yes.
J'ai une petite coutume à la fin du podcast, c'est de te proposer de me poser une question. S'il y a quelque chose qui te vient, tu peux y aller. Enfin, de nous poser une question.
comment t'arrives à gérer tous ces chiens? Parce que moi déjà avec un, j'ai du mal parfois. Comment t'arrives à faire ces longues promenades avec plein de chiens, à ne pas avoir peur d'en perdre, à réussir à tous les gérer en même temps, à garder un œil sur eux tous en même temps, à pas t'énerver aussi contre les chiens, à rester patiente, c'est un grand mystère pour moi.
Alors quand j'ai démarré, donc ça fait 7 ans, ça va faire 7 ans en janvier que j'ai démarré le dog walking, au début j'avais évidemment peur de les perdre, ouais. Parce que j'avais pas encore confiance en mes capacités à gérer un groupe de chiens. Ça vient avec l'expérience. Ensuite, mes chiens, je les connais tous. Le groupe, il est formé en fonction des caractères. Donc, je sais que... Enfin, je fais au mieux pour que le groupe soit plutôt calme. Et si j'ai des chiens un peu excités, bah, de les mettre avec des calmes. Enfin, d'essayer de gérer comme ça. Donc, je les connais. Je sais comment ils vont se comporter. J'ai pas de chien fugueur. Un chien fugueur, je pourrais pas le prendre, hein, honnêtement, ouais. Ça serait trop compliqué. Comment faire pour ne pas m'énerver? À l'époque, avant que je sois à mon compte, je m'énervais très souvent parce que je ne formais pas mes groupes et que j'avais des groupes intenables, mais vraiment intenables. Et c'est pas de leur faute, les pauvres chiens, ils sont là, ouais. Mais c'était pas possible. Donc ça rend fou parce que t'essayes de te faire entendre. Les chiens ne t'entendent pas, ils font leur truc et...
Comment tu dis, quand tu dis former ces groupes, ça veut dire quoi?
Eh ben, par exemple, Pipa, qui est un petit peu peureuse des autres chiens, je vais pas la mettre avec un chien qui est hyper speed, qui peut la courser, qui peut lui faire peur. Ce chien-là, il va être avec des grands chiens qui jouent comme lui.
Un autre jour,
exactement.
Ouais, okay. Donc c'est toi qui dis à tes clients, voilà, je vous conseille plutôt de donner votre chien tel jour, comme ça...
Exactement, et j'ai eu encore un appel cette semaine d'un chien que j'avais à l'époque de mon ancien patron, donc une petite chienne que je promenais, et il m'a téléphoné pour me dire, ça ne va plus dans le groupe dans son groupe actuel, je voudrais la changer, est-ce qu'il y a de la place pour elle? Et donc je lui ai dit, tel jour, on peut la prendre et ça va le faire. Et donc on fait le test demain. Mais donc oui, ça c'est primordial, c'est vraiment la base. Et aujourd'hui, je ne m'énerve plus du tout comme je pouvais m'énerver avant. Et s'il y a un jour où ils sont vraiment... Enfin, tu vois, ce matin, ils étaient assez speed. J'en attache un. J'attache ceux qui font un peu les fous, le temps de les calmer. Une fois qu'ils sont calmés, je les relâche. Et puis ça se passe... ça roule tout seul. Mais c'est de l'expérience. C'est... Léa, viens, on va voir. C'est de l'expérience. C'est... Je sais pas.
Je peux donner une image pour être venu... d'avoir un peu observé de l'extérieur une petite dizaine de fois, c'est comme une colonie de vacances en fait. Enfin, ce que j'ai ressenti, c'est que c'est comme si tu avais les mêmes enfants depuis X années que t'emmenais tous les jours en vacances. Donc forcément, les enfants te connaissent par cœur, tu les connais par cœur, t'es capable d'anticiper un débordement, ouais. T'es capable de maîtriser parfaitement leur comportement.
Arrêter, calmer avant que ça parte trop en speed.
Et il y a un deuxième phénomène qui est le phénomène de meute, qui fait que faudrait vraiment qu'il aille pour le voir, chaque chien a sa personnalité. Et t'en as un qui va être un peu policier, t'en as un qui va être un peu fripon, t'en as qui vont être plus pacifistes ou quoi. Et en fait, le tout s'homogénéise parfaitement et vraiment vit en harmonie. Alors, parce que les groupes sont formés et bien encadrés, mais c'est grâce à ça que tu arrives à ne pas avoir de laisse et pas avoir de débordement finalement.
Alors après, un nouveau chien a toujours une longe au départ. Tu vois, Pipa, tu m'avais dit qu'elle était un peu timide. Ben évidemment, t'as pas envie que le chien il parte, il s'enfuit à l'autre bout du bois parce qu'il a eu peur de ton groupe. Donc ouais. Là, faut toujours faire attention. Quand je sens que le chien est à l'aise, ben on enlève la longe. Et puis, et s'il faut, si on n'est jamais totalement confiant, je mets un petit GPS en plus, mais...
Oui, t'as ce trick, que t'as tes colliers à toi, que tu mets à chaque chien en promenade avec ton numéro.
Mais ça, c'est la base. Et ce qu'on ne faisait pas d'ailleurs, quand j'ai démarré Jungle Walking, les chiens étaient tout nus, si j'ose dire. Il n'y avait pas de numéro, même pas le numéro de leur maître parfois. Et ça peut arriver, même un chien qui t'obéit très bien, il ne voit pas que tu tournes ou il s'égare, c'est quand même un peu... Mais bon, après à Vincennes, on se connaît tous. Les gens connaissent mes chiens et on sait à qui ils sont. Et puis de toute façon, il y a les numéros dessus. Du coup, ça se passe bien. Et pour les surveiller tous, j'ai des yeux partout. C'est comme la maîtresse qui sait qui papote derrière son dos. J'ai des yeux partout.
C'est top, ça. Je viendrai une fois pour voir un
petit peu. Ouais, avec plaisir.
Ça m'intéresse, franchement. Ouais.
Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. C'était vraiment riche.
C'est un plaisir.
Et puis on suivra tes aventures, le prochain voyage avec Pipa.
Yes, ça marche. Bye. Merci.
Bye.
Ciao.
C'est la fin de cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des remarques, des questions ou que vous aimeriez raconter votre histoire ici, vous pouvez me contacter sur mes réseaux @dogsdehors, sur Instagram, sur Facebook ou par mail juliette@sebaux.com. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun épisode ou sur Instagram pour suivre nos balades chaque jour. À très vite! You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet.